Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
Hissez la grande voile!
Politique, société.
Mais y a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out. Four forward. Four forward, drift into the right level.
Tout le monde est à son poste?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin. La quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
Imaginez une ville dans laquelle les 10 000 habitants seraient amis. Imaginez un lieu où ces 10 000 amis se poqueraient sans cesse. Imaginez un endroit où vous pourriez écrire votre propre journal, où chacun aurait sa statue d'érigée, ou plutôt son statut Facebook de rédigé. Eh bien, ce lieu pourrait bientôt exister puisque Mark Zuckerberg, le géant des internets, le fondateur de Facebook, aimerait bien, comme ça, tranquille, créer sa propre ville, pas trop loin du siège du réseau social en Californie. Et pour qui? Eh bien, pour ses employés, pardi. Cette petite cité idéale. Connectée s'étalerait sur plus de 80 hectares au bord de l'eau, avec tout le nécessaire pour survivre, à savoir des supermarchés, des routes, des logements et sans doute une bonne connexion Wi-Fi. Le tout pour la modique somme de 200 milliards de dollars selon les médias américains, soit 5405 Falcon 7 ou encore 200 milliards de baguettes tradition. Mais l'argent n'est pas un problème, n'est-ce pas? Seule question, réservée à ceux qui pratiquent le réseau social et donc pas à mes parents, désolé papa, désolé maman. Seule question donc, pourra-t-on taguer les murs de la ville.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, nous recevrons Valentin de l'association A Flash of Angers qui organise vendredi et samedi le festival des Nuits en Dégave. Ce sera après la chronique Vigie de Pierre-Antoine qui décortique les chiffres et les propos politiques. Ce soir, il a 49,3 de fièvre. En fin d'émission, Chanel nous parlera de la série Park and Recreation qui s'est terminée hier sur les écrans américains. Chanel qui co-présentera ce soir l'interview à mes côtés. Mais d'abord, Angers est-elle la reine du vol de petites reines? Que fait exactement la brigade anti-vol de deux roues? Quels sont les vélos volés? Votre anti-vol a-t-il toute votre confiance?
À l'époque, j'étais en CTU, et donc, comme tous les soirs, je rentrais chez moi et puis je l'attachais. Et puis un matin, en me levant, hop, plus que la moitié du vélo. L'autre moitié avait disparu durant la nuit, comme ça.
Un ami qui s'est fait voler un vélo plusieurs fois. Il a vu le gars, il lui a demandé, il lui a rendu, et puis après, il s'est fait revoler ses pneus.
J'ai un ami qui passait chez moi, récupérait des affaires. Il a déposé son vélo en bas et puis le temps de revenir, hop, vélo disparu. Donc on s'est retrouvé à faire tout le secteur de la gare, à demander aux gérants de bar, aux gérants de kebab s'ils n'avaient pas vu quelqu'un voler un vélo en face de leur établissement. Et on l'a jamais retrouvé.
Deux personnes qui se sont fait voler leur vélo. Il y en a un qui avait oublié de l'attacher et qui est parti faire des courses, donc bon, on lui a volé son vélo, et une autre par contre qui avait mis un anti-vol et on a réussi à lui enlever.
La petite amie s'est déjà fait voler son vélo et on l'a retrouvé tout simplement 100 mètres plus loin, toujours avec l'anti-vol dessus. Je pense que c'est un mec bourré qui a dû tenter de s'enfuir avec et qui a pas remarqué qu'il y avait encore l'anti-vol dessus.
Bonjour Bernadette Caillard-Humeau.
Bonjour.
Vous êtes vice-présidente de l'association Place au Vélo, une association d'usagers du vélo militant pour l'usage et la promotion de la bicyclette comme moyen de locomotion. Et pour être tout à fait exhaustive, on peut ajouter que vous êtes aussi vice-présidente de Nouvelle Écologie Démocrate et référente écologie au sein de l'UDI. À vos côtés, Xavier Barbary, bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie de l'association La Tête dans le Guidon, qui est un atelier de réparation de vélo dans la rue Maillet.
Oui.
Vous êtes mécanicien de vélo. En face de vous, bonjour, Jean-Philippe Saragossi. Vous êtes major de police et créateur de la brigade de roues qui a été créée en 2008.
Oui, bien ça, oui.
Et à vos côtés, bonsoir Cyril Fouquet.
Bonjour.
Chargé de projets mobilité à l'agglomération, on connaît notamment Vélocité dont on va parler ce soir. Première question, qui autour de la table s'est déjà fait voler son vélo?
Moi.
Ah, moi aussi.
Plusieurs.
Plusieurs vélos.
Plusieurs.
Jamais. Je touche du bois.
Jamais.
Jamais. Ça fait donc 2 sur 4.
Jean-Philippe Saragossi, la brigade de roues a été créée en 2008. Alors pourquoi? Est-ce qu'Angers est une ville plus touchée que les autres par rapport au vol de vélo?
Non, pas du tout. Angers est une ville où il y a beaucoup de vélos parce que c'est une ville déjà assez écologique. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants, beaucoup de gens se déplacent à vélo parce qu'il y a des parcs qui sont sympas. Dans toutes les villes de France, il y a des vols de vélo, mais Angers, on s'en occupe plus particulièrement parce que On a créé une petite cellule, petite brigade, en 2008. On en a discuté avec notre ancien directeur départemental et on s'est aperçu que 10% des plaintes étaient liées au vol de deux roues, vélo, cyclo, moto. Et à part les affaires faites en flagrant délit, par la nuit, par la BAC, brigade anticriminalité ou par d'autres groupes de police, personne ne travaillait sur le fond du sujet. 10% des plaintes, c'est énorme. Et je sortais de la brigade anticriminalité après plus d'une quinzaine d'années. Et j'ai créé ça avec un petit adjoint de sécurité qui est maintenant policier à Paris. Donc on a monté ça tous les deux. On a passé des heures dans les caves, dans les cités, dans les quartiers. Et on a appris plein de choses.
Et vous êtes la première ville à avoir créé une brigade. Est-ce qu'on vous a suivi derrière ?
Pas tant que ça, parce que les patrons sont peut-être un peu réticents de dégager un major de police pour s'occuper de vols de vélo. Mais le vol de vélo, ça nous donne, beaucoup de choses au niveau police. Parce que c'est souvent des primo-délinquants qui ne sont pas connus de la police, souvent des jeunes, mais il y a aussi beaucoup de moins jeunes aussi, c'est pas... Et il y a une hiérarchie dans la délinquance, malheureusement. On commence dans les cités à voler des vélos, après les cyclos, les voitures. Et souvent, dans les quartiers, les premiers délits sont les vols de vélos.
Et comment est-ce que vous y prenez ? Quelles sont les actions menées exactement par la brigade ?
Donc on a un travail, comme on est une cellule, tout nous revient. Toutes les plaintes de la circonscription de police d'Angers nous reviennent. Donc on regroupe tout. Tous les jours, les plaintes de vélo sont enregistrées sur des fichiers informatiques par la date, le lieu du vol, la marque du vélo, la particularité du vélo. Et pour les cyclos, pour les motos, c'est exactement pareil. Et donc on est beaucoup plus à l'affût, quoi. On est des spécialistes.
Depuis 2008, est-ce que vous avez constaté, est-ce que vous savez ce que deviennent les vélos qui sont volés ?
Il y a tout. Il y a bien sûr, maintenant, avec Internet, avec Facebook, avec les sites Le Bon Coin. Parce que voler un vélo, c'est facile, mais c'est le revendre par derrière. Et on s'aperçoit que revendre un vélo, c'est très, très, très facile, maintenant.
Et Xavier, vous avez souvent affaire à des vélos qui ont été volés quand vous effectuez vos réparations ?
Non, parce que je suis assez vigilant là-dessus. Puisque je pense que comme tous les gens qui ont un atelier avec pignon sur rouge, j'ai déjà été approché par des gens. Et honnêtement, ça se sent très fort quand les gens vous disent « Est-ce que vous êtes intéressé pour reprendre des vélos d'occasion ?» Et on vous dit dans la phrase suivante qu'on peut en avoir plusieurs. En général, j'ai un affreux doute, quoi.
Et donc, c'est comme ça que vous faites la différence entre les vélos qui ont été volés. Est-ce qu'il y a des indices ? Comment est-ce que vous vous en rendez compte ?
C'est ce qu'on disait tout à l'heure en aparté. Par exemple, parfois, je pense qu'en fait, au bout d'un moment, ça sait que... pour moi, les gens qui volent un vélo, ils amènent rarement le vélo après dans un atelier pour le faire réparer. Leur but, c'est soit de se déplacer parce que c'est un vol de circonstance. Il y a un vélo qui traîne, on est sous, je sais pas quoi, on veut rentrer, point, on l'abandonne. Ça, je pense que c'est un vol à pas négliger et... qui se déroule pas que dans les quartiers. Je pense qu'en centre-ville, les jeudis soirs, c'est un des vols les plus fréquents. Soit on veut le revendre, et dans ce cas-là, on passe très rarement par la case atelier. Je pense pas que les gens fassent réparer leur vélo pour le revendre. Ils vont directement sur... soit ils passent par Le Bon Coin, soit ils vont dans des dépôts-ventes. Je pense que ça sait au bout d'un moment quels endroits sont pas trop regardants. Après, moi, clairement, quand je vois des vélos dans la rue qui sont repeints de frais, de A à Z, où on n'a rien démonté, je pense que c'est un vélo volé. Enfin... Il y a quand même des signes.
Et quels sont les dégâts qu'on peut constater sur un vélo quand ils ont été volés ?
Je sais pas, enfin, le problème c'est que bien souvent les dégâts c'est quand le vélo a pas été volé, puisqu'il a été vandalisé dans la foulée. Par exemple, je vois souvent des vélos qui sont pliés parce que la personne essaie de défoncer le U, mais c'est le cadre qu'elle a lâché et pas le U. Ça arrive souvent, ou les roues voilées. Je pense que la question du vandalisme et du vol, elle est vraiment intimement liée. Après, je pense qu'on peut en parler. Pour moi, le mot anti-vol, il est un peu abusif. C'est des ralentis-vols. Il n'y a aucune solution qui est vraiment efficace. Même un U, c'est juste une question de temps.
Avec un bon gros chalumeau.
Même pas.
Bernadette Caillard-Rumeau, dans l'association, est-ce que vous avez beaucoup de retours d'adhérents, de militants pour le vélo qui sont freinés justement dans l'utilisation parce qu'ils en ont marre de se faire voler leur deux roues, leur bicyclette?
Oui, on en a, et on en a même, on en a beaucoup, et dans toutes les associations, et au sein de la Fédération des usagers de la bicyclette, c'est un élément fort en fait que nous défendons. On donne des trucs pour pas se faire voler le vélo, et puis on a créé en 2004 en fait un système qui s'appelle Bicycode, qui permet de marquer le vélo. Et ça, on le fait en partenariat avec la police et la gendarmerie. Et ça fonctionne très bien. À l'heure actuelle, on a 200 000 vélos, je crois, qui sont marqués en France, c'est-à-dire 35 000 par an, à peu près, en ce moment. Et ces vélos qui sont marqués, 40% vont être retrouvés. Voilà, ça c'est la grosse affaire déjà de la fédération et des associations. Après, on donne des conseils pour ne pas se faire voler son vélo.
Et comment est-ce qu'on s'y prend quand on veut faire marquer son vélo? Est-ce qu'on vous l'apporte? Quelles sont les démarches à suivre?
Oui, on s'adresse alors aux associations locales, ou bien alors on a 160 opérateurs en France qui sont principalement des associations, mais aussi des collectivités locales. Angers a une machine. Nous avons Place au vélo à Angers une machine. Alors il faut nous contacter et puis on effectue des journées de marquage. On va en effectuer une cette année en collaboration justement avec le commissariat de police d'Angers, sans doute sur Place Lafayette.
Oui.
Et puis pour ceux qui n'ont pas de vélo personnel, à Angers, on peut emprunter un vélo à la ville. Ça s'appelle Vélocité et beaucoup de vélos municipaux. Est-ce que beaucoup de vélos municipaux sont dérobés justement, Cyril Fouquet?
Alors, par rapport à d'autres collectivités en France, on est dans la moyenne, ni plus ni moins. On se fait à peu près voler une centaine de vélos par an sur à peu près 4500 contrats établis. Donc ça fait 1 ou 2% de vol, ce qui est très raisonnable. Sachant que sur ces 120, on va en retrouver 1 sur 2. En collaboration avec les équipes de police et puis l'équipe de Vélocité, on arrive à retrouver un vélo sur 2.
Et vous arrivez à retrouver un vélo sur 2 parce qu'ils sont marqués?
Parce qu'ils sont marqués, facilement reconnaissables, hein, puisque les vélos de la ville ont leur sticker et leur couleur. Et puis on commence, M. Saragossi parlait de spécialité. Il faut être un peu spécialiste pour repérer les coins où retrouver les vélos et savoir où sont passés les vélos.
J'imagine que c'est quand même assez dissuasif quand on est voleur de vélo, de voler un vélo qui, comme vous le disiez, est étiqueté.
Oui, alors on a des tentatives de personnes qui repeignent un peu leur vélo. Souvent, les vols, c'est finalement un emprunt pour aller d'un trajet à un autre. Ni plus ni moins, hein, ça va pas au-delà. On a quelques tentatives de vandalisme, mais ça reste à la marge. On a très peu de vélos par an. Je dirais qu'on a un ou deux vélos complètement détruits par an. Souvent, on retrouve les vélos quand même dans un bon état. C'est juste qu'ils ont été empruntés et que voilà, c'est considéré que, enfin, c'est un vol.
La police a des petits trucs. Quand on voit, par exemple, un jeune sur un vélo Vélocité, on sait déjà que faut être majeur pour avoir un contrat. Déjà, un mineur sur le vélo pas en très bon état, pas de contrat, d'antivol surtout. Quand il n'y a pas d'antivol, ça c'est on flaire tout de suite. Et souvent, la personne est contrôlée par les services de police. Donc nous, on fait savoir tout ça à nos équipes. Et ça revient en boule de neige parce qu'ils savent que derrière ça suit, que le tribunal suit. Ça, c'est important aussi de dire. Les personnes sont condamnées, sont poursuivies, même si c'est des petites peines, il y a des rappels à la loi, ils sont convoqués devant le délégué, le procureur de la République. La mairie se déplace, se porte partie civile, se fait rembourser les dégâts, et ça, c'est important.
Si je peux me permettre, au-delà de la répression, il y a un sérieux problème aussi au niveau de l'éducation des cyclistes. Je pense qu'il y en a plein, déjà, personne ne leur a expliqué juste comment attacher leur vélo.
Ouais.
Parce que déjà, souvent ne pas l'attacher parce qu'on fait une course, c'est une grosse erreur, parce que voler un vélo, l'objet permet de s'enfuir en lui-même. Donc déjà, il y a un sérieux problème. Les vélos qui sont attachés à rien d'autre qu'à eux-mêmes, il n'y a rien qui empêche de le mettre dans une fourgonnette. Donc là, je pense qu'il y a un vrai problème. Et il y a aussi un problème, c'est que les gens, En France, il y a une perception du vélo comme un objet presque quasi jetable. Ouais. Je pense qu'on est un des rares pays d'Europe où on peut acheter un vélo dans un supermarché, ce qui est quand même notable. Le prix moyen d'un vélo en France, il est beaucoup plus bas qu'en Allemagne ou qu'aux Pays-Bas. Et que de fait, en fait, les gens ils mettent pas assez d'argent dans un antivol. On dit qu'il faut mettre 5 à 10% de la valeur du vélo dans un antivol. Je pense que moi, la plupart des antivols que je vends, je le dis tout de suite, c'est des antivols de merde. Moi, il me faut 10 secondes pour les péter. Je le dis. Donc après, les gens ont beau jeu aussi de se plaindre. Je pense qu'il y a un problème d'éducation sur comment en amont, on s'équipe pour pas se faire voler.
Est-ce que je peux rajouter quelque chose ? Alors, pour nous, association, on milite pour d'abord que les gens achètent un cadenas qui vaut le coup. Même si le U, bah, il n'est pas parfait, il peut se faire casser, c'est quand même le U qui, essentiellement, va permettre de ne pas se faire voler son vélo. Et tous les restes, oui, c'est ça, on est d'accord. Tous les autres, c'est très facile, on prend un marteau, on tape dessus, et puis c'est parti. Après, quand on met le U, il faut le mettre avec le cadre de préférence, il faut mettre la serrure plutôt vers le bas, il faut le mettre quand même pas complètement par terre, mais plutôt à 50 cm du sol. Ça, c'est déjà la première chose. Et si on n'a pas un U, si on n'a pas investi effectivement 20-30 euros, c'est le minimum, mais souvent ça va jusqu'à 60 ou 80, eh bien on a beaucoup de chances de se faire voler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ben, c'est de l'attacher à un point fixe. Et ça, ben, on demande de notre côté à la ville de développer les arceaux. C'est absolument indispensable pour pouvoir bien attacher son vélo. Et puis aussi chez soi, hein, dans le local de l'immeuble, il faudrait pouvoir avoir un arceau ou un anneau pour pouvoir bien l'attacher, parce qu'il faut savoir quand même que la moitié des vols, ça se fait à son propre domicile. Hein. Donc ça, c'est important. On pourrait multiplier donc les arceaux en ville comme chez soi. Et si les anneaux, on ne les voit pas encore beaucoup, mais un anneau, comme on avait les anneaux pour les chevaux, eh bien, déjà, ça rendrait service, qui serait le long des murs des bâtiments municipaux. Ça pourrait être une idée. Et puis, troisièmement, on sait que si le vélo est un petit peu particulier, je crois qu'on en avait discuté avec M. Saragossi, s'il est customisé, comme on dit, il a un peu moins de chance d'être volé.
Mais voilà, les délinquants s'adaptent. Ils sont malins parce que bon, ils commencent à connaître notre brigade et ils vont voler plus un décathlon gris. Il y en a des milliers sur Angers qu'un vélo orange vraiment typique, quoi. Mmh. Ils s'adaptent.
On va poursuivre cette discussion juste après. Dick Hanegarn, vélo vol.
Et de 1, et de 2, et de 1, 2, 3, et. Vélo va, vélo vol, la voix va où vélo va, vélo vire, vélo volte, où va la vie, vélo va. Belle voiture, beau camion, beau véhicule à locomotion, beau wagon, belle station. Beau train à très grande vision, bel avion, belle fusée, belle station espacionnée, belle colcose de spationose, bel espace de cosmos rose. Vélo va, vélo vol, la voix va où vélo va, vélo vire, vélo volte, où va la vie, vélo va. Belle moto, beau mécano, Spiderman, Superman, belle bécane à arbre à cam, turbochrome d'échappement. Vélo vol, la voix va où vélo va, vélo vire, vélo volte, où va la vie, vélo va. Rien ne vaut le pédalo avec pédale et avec son zoo qui dévale la vallée. Avec sandales et avec ses pieds. Belle péniche, beau canot, belle écluse, bon tirant d'eau, beau marin et beau matelot. Mais rien ne vaut le vélo. Vélo va, vélo vole, la voix va où vélo va, vélo vire, vélo volte. Où va la vie? Vélo va, vélo va, vélo vole. La voix va où vélo va, vélo.
19h, 20h, le sous-marin volte, sur Radio Campus Angers.
Où va la vie? Vélo va.
Ce soir, on parle de vélo en compagnie de Bernadette Caillard-Humeau, vice-présidente de l'association Place au Vélo, Xavier Barbary de la Tête dans le Guidon, Cyril Fouquet, chargé de projet mobilité à l'agglomération, et Jean-Philippe Saragossi, monsieur anti-vol de deux roues à la police. Alors, effectivement, on a été un peu pessimiste, on a commencé sur les vols de vélo, maintenant on va peut-être parler des vélos tout court à Angers. Est-ce que la Tête dans le Guidon, ça a été créé il y a
6 ans.
6 ans, voilà, c'est ça. Est-ce que c'était suite à un engouement du vélo, enfin une mode du vélo, ou pas du tout?
Un engouement personnel et collectif avec d'autres gens. Moi, en fait, à vrai dire, avant de faire de la mécanique vélo, j'étais livreur à vélo à Angers. Donc, après avoir fait des études universitaires, je ne savais pas faire autre chose que pédaler, en fait. Donc, voilà.
C'était pas forcément, quand ça a été créé, c'était pas forcément en réaction au fait que plus de gens faisaient du vélo.
Non, c'est un parcours personnel et collectif, avec d'autres amis.
Bernadette Caillard-Humeau, à Place au Vélo, est-ce qu'on s'est rendu compte d'un engouement particulier, ou ça fait longtemps que les gens font du vélo à Angers, et pas plus maintenant qu'auparavant?
Alors, il y a une histoire, effectivement, du vélo à Angers. L'association a été créée il y a bientôt 20 ans. Il y avait à cette époque-là encore toute une population qui se rendait à vélo à son travail, une population plutôt ouvrière et assez importante sur Angers. On en voit encore d'ailleurs ces personnes âgées qui se déplacent à vélo, qui ont fait du vélo finalement toute leur vie et puis qui s'en portent bien d'ailleurs. Et elle a été créée parce que, parallèlement, la circulation automobile augmentait et les vélos étaient de plus en plus en danger, puisqu'il n'y avait aucune infrastructure cyclable. Et ça a été les raisons de la création de cette association. Et ça a été, à l'époque, un engouement extraordinaire. La première assemblée générale, la salle était pleine à craquer. Je dirais pas que... Certainement, il y a plus de vélos en circulation, même si les chiffres qui ont été faits récemment ne donnent pas une part modale très très importante. Hein, je crois que c'est de l'ordre de 3% sur la ville. Il nous semble que la part modale doit être supérieure à ça, parce que les comptes ne sont pas toujours extrêmement justes qu'on est dans ces eaux-là. On pense qu'on est plutôt à 6% de part modale. Il y a de plus en plus de vélos. Les étudiants s'y mettent parce que c'est économique. Et puis là derrière, on trouve toujours des raisons. Ça pollue pas, etc. C'est plus rapide aussi.
C'est plus rapide.
Hein, c'est plus rapide sur un trajet moyen, je crois. C'est 3-4 km. 3 km.
Le temps de prendre sa voiture, se garer, payer des fois le lieu d'emplacement, il faut mieux prendre un vélo.
Voilà, c'est du temps de gagner. Donc, il y a plus d'âgés qui font du vélo maintenant, mais il y avait une culture vélo auparavant à Angers.
Et on en a parlé tout à l'heure, la ville met à disposition un système de prêt de vélo. C'est 4 mois, renouvelable seulement 3 fois. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de borne Vélib ou Biclou ou Vélof, Cyril Fouquet?
Alors, pour les vélos, donc c'est un prêt de vélo gratuit. Hein, c'est bien de le préciser parce que ce n'est pas dans toutes les villes en France. Donc c'est un prêt de longue durée, 4 mois c'est le maximum qu'on renouvelle 3 fois. Donc l'objectif c'est bien de remettre les Angevins en selle pour qu'ils utilisent le vélo sur leur trajet domicile-travail. Voilà. Et on n'a pas de biclou ou de vélo libre-service. On avait une station devant la gare, on n'en avait qu'une. Du coup elle ne fonctionnait pas beaucoup. Donc on l'a enlevé et on préfère miser sur ce prêt de vélo gratuit qui fonctionne très bien aujourd'hui, puisqu'on a 2500 vélos en circulation, 4500 contrats. On est passé de 500 vélos en 2004 à 2500 aujourd'hui. On a beaucoup de demandes de la part des entreprises, donc on a beaucoup de travail déjà aujourd'hui avec Vélocité. pour un coût pour la collectivité qui reste assez maîtrisé, contrairement au vélo libre-service qui coûte assez cher aux collectivités.
Et Angers, justement, on a près de 100 km de pistes cyclables, des CD le passage cycliste au feu, on a des services de location de vélos, mais pourtant on a l'impression que la ville reste un petit peu en retard, elle fait même pas partie des classements nationaux. Est-ce qu'il y a des avancées envisageables ?
Il y a des reculs aussi.
Il y a des reculs dans quel sens ?
Typiquement, pour moi, lors de la première heure de stationnement gratuite, c'est une hérésie. Enfin, dans une perspective de vouloir développer le vélo, ce qui est à peu près clair aujourd'hui, c'est que les modes de transport, ils sont concurrents. Si à un moment on favorise un mode de transport, c'est au détriment des autres. Et aujourd'hui, favoriser la voiture, je pense que ça ne va pas forcément se faire au détriment du vélo, mais ça peut se faire au détriment des transports en commun, des piétons aussi. Je pense que c'est là aussi, c'est compliqué, ce que vous disiez tout à l'heure sur les parts modales de vélo. C'est que si un mode de transport peut augmenter, ça peut se faire au détriment d'un autre. Et ce n'est pas toujours très clair aujourd'hui si le vélo progresse, si c'est au détriment de l'automobile ou si c'est au détriment des transports en commun et des gens qui marchent. C'est peut-être des choses qu'un jour, on pourrait avoir des outils un peu plus fins pour savoir. Aujourd'hui, c'est délicat.
Mais si on parle simplement financièrement, je crois que quelquefois, on ne réalise pas que le vélo, c'est une économie énorme pour la collectivité locale. Imaginons que la part modale passe de 5 à 10%. 10%, c'est pas énorme. Hein. Copenhague, ils sont à 40%. Eh bien, c'est des économies énormes sur le budget transport. C'est-à-dire, c'est moins de bus qu'on met sur l'arrêt Plantagenet le matin pour les étudiants qui vont à Belbeil. À chaque fois, c'est 10 000 euros, etc. Je crois qu'il faudrait faire le calcul. De faire une politique cyclable où on arrive à 15%, il y a beaucoup de villes, même en France, hein, qui ont ce plan-là, Bordeaux, etc. Et puis ce que ça coûte à la collectivité. Voilà, je crois que ça serait vraiment un chantier à mettre en place avec l'agglomération, par exemple.
On va conclure cette émission, cette interview sur un petit tour de table. Alors, avec les conseils, on en a déjà eu pas mal de votre part, Bernadette Caillère-Humeau, mais pour pas se faire chourer son vélo, voilà, tout simplement. Donc, l'antivol en U, même si Xavier Barbary, vous êtes encore sceptique, parce que
pas sceptique, je dis juste que c'est le plus efficace, à défaut d'être parfait.
Et puis, est-ce qu'il y a des endroits où il faudrait pas laisser nos vélos, peut-être, tout simplement ?
Faut pas laisser le vélo deux jours consécutifs, la nuit, au même endroit.
Ouais.
Ça,
c'est indispensable.
Le vélo évolue, c'est sûr.
D'autres
Moi, c'est ce qu'on constate à Vélocité, c'est qu'un vol de vélo n'arrive jamais par accident. C'est-à-dire, soit la personne n'a pas attaché son vélo, soit elle l'a mal attaché, soit elle l'a laissé dans un endroit isolé pendant très longtemps, ou alors elle l'a laissé sur la voie publique pendant 15 jours pendant ses vacances, et du coup, elle se l'est fait forcer. On n'a pratiquement jamais de cas de personnes qui se sont fait voler leur vélo. En respectant les recommandations, il y a peu de risques de se faire voler son vélo sur Angers.
Les étudiants aussi, quand ils partent en vacances, ils laissent les vélos, des fois, sans attacher, ils les prêtent aux petits copains qui ne partent pas en vacances, dans les halls d'entrée. Et on a beaucoup de visiteurs la nuit dans les halls d'entrée.
Ouais, et puis peut-être pour terminer, pensez à le marquer, parce que s'il est volé, eh bien, il y a quand même une chance sur deux de le retrouver.
Merci beaucoup Bernadette Caillère-Humeau, Xavier Barbary, Jean-Philippe Saragossi et Cyril Fouquet d'avoir été dans le sous-marin ce soir.
Merci.
Merci.
Merci à tous.
You got nothing better to do this Hollywood thing. You can talk the smack around the dogs again. You got nothing better to do this Hollywood thing. You can talk the smack around the dogs again. You got
C'était Surf City avec Hollow Veins.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
On est mercredi, il est 19h30, c'est l'heure de retrouver Pierre-Antoine qui décortique les chiffres et passe à la moulinette les propos de nos hommes politiques. Salut Pierre-Antoine.
Salut.
Mercredi dernier, Manuel Valls a décidé de couper court aux discussions parlementaires sur la loi Macron. Le Premier ministre a utilisé l'article 49.3 de la Constitution qui permet de faire passer une loi de manière expéditive en engageant la responsabilité du gouvernement.
Une façon pour le Premier ministre de mettre au pas les députés frondeurs opposés à la loi Macron, loi fourre-tout destinée à libéraliser l'économie et largement contestée par les partis à gauche du PS mais également et plus étonnamment par la droite. L'usage du 49.3, arme suprême du gouvernement en cas de blocage, a beaucoup fait parler, certains députés frondeurs dénonçant la décision de Manuel Valls, des critiques qui sont également venues de l'UMP et notamment de Nicolas Sarkozy, c'était jeudi dernier sur Europe 1.
Le 49.3, c'est une mesure disciplinaire pour contraindre une majorité qu'on est en train de perdre de voter un texte qu'elle ne veut pas voter. Pourquoi je ne l'ai pas utilisé? Parce que lorsqu'on utilise le 49.3, ça veut dire qu'on n'a pas la force de convaincre sa majorité.
Alors Pierre-Antoine, est-ce que Nicolas Sarkozy a toujours été de cet avis?
S'il est vrai, Tiffaine, que Nicolas Sarkozy n'a jamais utilisé le 49.3 lorsqu'il était président, il faut remonter un peu plus dans les années pour retrouver un rapport entre l'actuel président de l'UMP et ce fameux article de la Constitution.
C'était en 2006.
Oui, lors des discussions sur le contrat première embauche, la fameuse loi qui avait fait descendre les jeunes dans la rue. Dominique de Villepin, alors Premier ministre, avait décidé de faire passer le projet de loi en force en invoquant le 49.3. Alors bien sûr, Nicolas Sarkozy n'était pas en charge du projet de loi à l'époque, mais en tant que ministre de l'Intérieur, poste qu'il a occupé de juin 2005 à mars 2007, il avait dû se prononcer sur la question. L'article 49 de la Constitution impose au Premier ministre de proposer le passage en force en Conseil des ministres, justement, avant de l'annoncer, puisque cela entraîne la responsabilité de tout le gouvernement. Si Nicolas Sarkozy était opposé à son emploi, il aurait pu le faire savoir dans les médias, ou, puisque ça a l'air de tellement le contrarier, démissionner de son poste de ministre d'État. Il n'en a rien fait, alors si Nicolas Sarkozy n'a jamais utilisé personnellement le 49.3, il n'a pas particulièrement paru choqué lorsque ses collègues s'en sont chargés.
Là, tu chipotes un peu, Pierre-Antoine?
Peut-être, mais ça me fait tellement plaisir. Nicolas Sarkozy disait jeudi dernier que les gouvernements utilisaient le 49.3 lorsqu'ils perdaient leur majorité. Rappelons au président de l'UMP qu'en 2006, Dominique de Villepin ne s'opposait pas à ses propres députés, mais à l'opposition de gauche, qui abusait des dépôts d'amendements pour retarder le vote final. Enfin, pas question d'être partisan, je ne résiste pas non plus à vous rappeler la réaction d'un certain François Hollande. En 2006, le premier secrétaire du Parti Socialiste qu'il était avait un avis bien tranché sur la question.
Le 49.3 est une brutalité, le 49.3 est un déni de démocratie, le 49.3 est une manière de freiner ou d'empêcher le débat parlementaire, mais il va se poursuivre ce débat parlementaire d'une manière ou d'une autre.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Merci Pierre-Antoine. On accueille maintenant Valentin. Bonsoir.
Bonsoir.
Seb, bonsoir.
Bonsoir.
Et Flo,
bonsoir.
Bonsoir, de l'association A Flash of Angers, qu'on va appeler AFOA, parce que, voilà, c'est plus simple. Alors, l'association présente les 27, donc vendredi, et 28, samedi, février, deux soirées consacrées au black metal et à ses styles dérivés, alias sludge, doom et autres genres, incompréhensibles pour moi. Petit point de vocabulaire, donc le black metal, c'est quoi, en gros, en quoi ça se différencie du metal ? S'il vous plaît.
C'est un dérivier le plus extrême du métal, on va dire. Comment? La question, pas simple.
Quoi, ça joue plus fort, tout simplement
C'est surtout très rapide. C'est agressif, parfois lourd. Les chants sont souvent aigus, assez criés. Sinon...
Le sludge, c'est quoi?
Le sludge, c'est... ça serait plus une forme, comment dire, vachement lourde du métal, c'est-à-dire un tempo vachement lent et un son lourd, un peu, on va dire, un peu étouffant. C'est, voilà, beaucoup de basses, voilà.
Et le doom pour finir?
Ah, le Doom, surtout que c'est pas ma spécialité. Bon, du coup, tu es sur des temps très très lourds aussi, mais rapprochés avec une voix très heavy metal, beaucoup plus aiguë, plus symphonique.
C'est très lent.
C'est très très lent, ouais.
En général. Et...
Ça va, je crois que j'ai compris. On peut revenir peut-être sur la naissance de l'association AFOA. C'était quand et quel objectif?
Alors, au début, aucun de nous trois était dedans. C'est créé par le groupe Mechanic of the Bomb en 2012. Et ils ont tout simplement créé l'asso pour pouvoir se faire jouer à Angers plus facilement. Car quand on est une asso, c'est plus facile auprès des bars, des salles. Et après, ça a évolué. Ils ont fait jouer d'autres groupes sans se faire jouer eux-mêmes. Puis au fil du temps, il y en a qui sont partis. Moi, j'ai rejoint l'asso en 2013. Et les gars, fin 2014. À peu près.
Ce qui est assez fou, c'est qu'on peut constater depuis quelques années que les assos qui mettent en avant le métal se multiplient. On peut penser à Angelax Metal, Ulster Rock, enfin, pour en citer que quelques-uns. Mais comment vous expliquez ça? Et est-ce que surtout ça vous gêne entre vous qu'il y en ait autant?
Effectivement, ça Flo. Peut être un peu dérangeant qu'il y ait autant d'assos pour une petite ville comme Angers.
Et encore, on a réduit. Car avant, tous les deux étaient dans...
Oui,
dans Barbasso voilà.
Une asso plus de Laval que d'Angers, même si on avait fait un peu de concert dans voilà.
Et là maintenant c'est vrai qu'être trois assos complique les dates se rapprochent un peu.
Disons pour résumer un peu le public métal à Angers, il y a beaucoup de d'offres et peu de demandes pour le public, en fait il y a beaucoup trop de dates pour le public et des fois il est peut-être un peu perdu. Je ne sais pas.
Bon, en tout cas, là, le public, s'il veut aller voir du métal, ça sera vendredi, samedi, cette semaine. On va parler tout de ça fait. Ce soir. Les Nuits en Dégave, c'est donc deux jours de black metal dans deux lieux différents dont on va parler. Mm-hmm. Revenons sur le nom en Dégave. Donc, c'est un peuple gaulois du coin qui a donné naissance à l'Anjou et à Angers. C'est une volonté de mettre l'accent sur les groupes locaux, de titrer votre festival comme ça.
Oui, sur... pour les groupes locaux et pour montrer que c'est vraiment Angers, ce sera pas ailleurs.
Et puis en plus, le terme en dégave, le black metal, ça a toujours été affilié au folklore français, de chaque pays.
Beaucoup porté sur le folklore moyenâgeux.
Voilà donc
sur toutes les légendes de Tolkien surtout.
Causons de cette prog. Donc, on commence par vendredi et vous allez nous aider à y voir plus clair pour ceux qui ne connaissent rien. Bonsoir. Anamor.
Anamor.
C'est du doom.
C'est. Comment dire?
Sludge, black.
Il mélange pas mal de genres de métal obscur.
Voilà, au début, je faisais partie du groupe et qu'on a créé ça, on voulait faire une sorte de doom avec une voix death, mais. Voilà, ça. Quelques termes. Donc, une voix plus grave.
Guttural.
Avec des passages un peu plus rapides, comme on peut le voir dans le black metal, et ils sont toujours restés dans cette voie.
Partage l'affiche également Ruine, un groupe de Tours.
Oui.
Qu'on pourrait décrire comment?
C'est un black metal beaucoup plus moderne, donc ce qu'on appelle du post-black metal. Il y a des parties, c'est un peu de la fusion entre le sludge, le post-hardcore. Donc, qui est vraiment Seb, si tu veux bien.
Disons que c'est. pour résumer,
c'est compliqué.
Ça a la même essence que le black metal, sauf qu'il y a beaucoup plus de parties, on va dire, aériennes, planantes.
Atmosphériques.
Voilà.
C'est pas tout le temps de la musique rapide.
Voilà, c'est pas que du gros.
C'est beaucoup plus mélodique. Mais ouais, sur l'aérien, sur
l'atmosphère. Voilà, c'est plus. Ça fait voyager.
Voilà.
et vendredi soir, on pourra également écouter War Inside, qui est un groupe nantais qui passait au Hellfest.
Oui.
Tout à fait.
Donc, oui, sur la détail, Metal quoi. Corner, pas dans le site même, mais ouais, qui était très chouette d'ailleurs, ce post-concert.
Ils avaient joué au Metal Corner, le before du Hellfest,
le jeudi soir avant le début du festival.
Et ouais, qui font un mélange de death et de black metal.
Comme par c'est donc il y a toujours cette base de black metal comme tous les groupes présents, sauf que là on est plus sur de la technique.
C'est un peu plus recherché, un peu plus technique.
C'est t'as les mélodies, on va dire, malsaines du black metal, avec la partie death metal beaucoup plus technique.
Avec des solos, qu'on retrouve pas dans le black metal.
Pas forcément.
Moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé sur cette soirée du vendredi, c'est qu'elle se passe au Café Latin.
Alors la soirée du samedi est au Téroc et ça semble plus naturel entre guillemets, mais Café Latin, le choix s'est fait comment?
C'est un lieu que moi j'apprécie particulièrement parce que Arsène, le patron qui est super gentil, voilà, propose sa salle et sans connaissance derrière, mais là-dessus il nous fait confiance.
Ouais, puis on est habitué, ça fait avec Barbasso et Afloa.
On a fait pas mal de dates là-bas.
Trois ans qu'on fait des dates.
C'est
un espèce d'échange de procédés en fait, parce que le Café Latin, c'est vrai que c'est pas forcément le bar le plus fréquenté d'Angers. Et du coup, lui, il nous donne à disposition son lieu pour qu'on organise des concerts. Et puis, en échange, il a du monde, quoi, tout simplement.
On passe au samedi, avec l'affiche du samedi dont vous allez nous parler. Il y aura Sordide qui a sorti son premier album l'année dernière.
Ouais, c'est exact.
Groupe de Rouen.
Donc là, on rentre dans le black metal très agressif. Donc sur.
Le samedi, c'est plus axé black metal.
D'ailleurs, vous dites que les groupes du samedi sont. Enfin, que tous les groupes sont plus malsains les uns que les autres. C'est le terme.
Ah oui.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on doit entendre par là?
Non, mais c'est. C'était une petite phrase. Voilà.
C'est
vrai que là, tu retrouves vraiment des groupes extrêmes, que ce soit dans l'idéologie ou. Dans les textes, clairement, ou dans la musique.
Extrême comment? Dans les textes, dans l'idéologie, ça veut dire quoi?
Très haineux.
D'accord.
Voilà, c'est...
Tout simplement.
On citera donc Goth Holocaust, un groupe de Nantes, Selvesmord,
un groupe angevin.
Et Révérence, première date depuis 2009, un groupe angevin.
Oui, 2009. Qui
avait une
qui
bonne
reprend du service maintenant.
Qui avait une bonne réputation à l'époque. Et qui n'a plus fait de date, je ne sais pourquoi d'ailleurs, Valouche.
Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ils ont pas fait de date depuis si longtemps.
Alors, à vous entendre, on apprend beaucoup de mots de vocabulaire. Est-ce que les Nuits en Dégaffe peuvent s'adresser à tout le monde ou est-ce qu'il faut quand même s'y connaître un peu pour prendre son pied à vendredi et samedi?
Déjà, tu rentres dans une niche quand même sur ce type de musique assez extrême.
C'est vraiment axé sur ceux qui aiment surtout le black metal.
Mais. C'est donc, pas pour rien qu'on a fait deux jours non plus, puisque effectivement le vendredi est beaucoup plus accessible, on va dire, que le samedi.
D'accord, donc vous conseillez aux novices de se pointer plutôt vendredi.
Et les initiés, je leur conseillerais plutôt le samedi. Ils seraient sûrement plus dans leur élément.
C'est quoi les autres projets de l'asso ensuite, après les Nuits en Dégaffe? Est-ce que vous avez d'autres dates de Calais déjà pour le printemps?
Eh bien, on a le 13 mars. Où là, il y a encore plein de groupes avec plein de termes compliqués.
Le 13 mars, oui, c'est à Zouidro,
voilà.
Zapruder et Armdon.
Où ça?
C'est au Téroc.
Au Téroc. Bon, en tout cas, l'actu, là, c'est vendredi et samedi. Vendredi, au Café Latin, entrée 3 euros.
C'est ça,
oui.
Et puis samedi, au Téroc Coco, l'entrée est à 5 euros.
Oui, voilà.
Merci beaucoup, Valentin, Seb et Flo, d'avoir été dans le sous-marin. Puis bonne nuit en Dégave, alors.
Merci.
Tout de suite, on écoute un tout autre style. Il n'est pas question de sludge, ni de doom, ni de death ou black metal, mais de soul, de funk, avec Early Clover et The Georgia SD. Ça s'appelle Think It Over. Merci encore.
Merci.
Mixed up in mine. She got this thing. Don't wanna see me with nobody else. Hey, baby, see, I wanna talk to you about this now. It ain't no time to talk about it. Better think it over. You better think.
20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Parlons maintenant série, parlons culture pop avec Chanel.
Les cœurs des fans de comédie américaine se sont serrés hier après 125 épisodes, 7 années aux côtés de Leslie Knope et de son équipe de fonctionnaires municipaux. Park and Recreation, c'est fini. La série n'est pas diffusée en France, mais bon, si vous traînez un petit peu sur Twitter ou Tumblr, vous savez de quoi je parle.
La série est presque plus connue pour ça même que pour les épisodes eux-mêmes, vu qu'ils sont très courts, les scénaristes sont obligés d'adopter un humour lapidaire, un humour idéal pour les gifs en fait.
Mais bien évidemment, quand on n'a que 21 minutes, on n'a pas le choix, il faut tailler dedans directement. Les scènes sont très cut, résultat, les blagues fusent. April baigne dans un humour noir, Andy fait office d'idiot du village et Ben de nerd. Et parmi tous ces personnages, il y en a un qui s'est imposé comme le roi de la pop culture, Ron Swanson. Sa moustache est iconique, ses citations reprises partout sur le web. Il y a même plusieurs Tumblr à son nom, dont un, attention, sur les chats qui lui ressemblent. Oui, allez savoir pourquoi. Les comptes Twitter supposés lui appartenir comptent plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Bref, en termes de culte, Ron Swanson, c'est un petit peu le Bill Murray du petit écran.
À la base, il avait tout pour être l'un des personnages les plus détestés, surtout ici. Il descend constamment l'Europe et le Canada, considère les États-Unis comme le seul vrai pays et voit dans chaque intrusion de l'État l'avancée du communisme.
Et pourtant, Ron Swanson est devenu le personnage le plus cool de la télévision. C'est le gars qui a du mal avec la technologie et qui se moque des bobos, il a des principes et il s'y tient. C'est la caricature en fait de l'homme de base des années 50. Il est paresseux, il est désagréable, ses blagues sont nazes et il crève l'écran.
Le succès de Ron Swanson, c'est évidemment celui de Nick Offerman, mais l'acteur aurait pu ne jamais apparaître dans la série.
En fait, il avait postulé pour un autre rôle qui a été supprimé entre temps, mais au final, les producteurs l'ont tellement aimé qu'ils ont presque créé un personnage juste pour lui.
Ron Swanson, c'est aussi un succès d'écriture.
Oui, Tiffany, il aurait pu ressembler à toutes ces incarnations de la masculinité qui sont en fait une succession de clichés ratés. Alors on est d'accord, hein, tous les mecs à la télé peuvent descendre des bières et donner l'impression d'être forts. Mais ce qui fait de lui un homme, c'est de ne pas se confronter à la définition qu'en fait la société. Alors forcément, on s'attache à lui parce qu'on sait exactement comment il va se comporter. On le connaît en fait. Et au fil des saisons, on le voit évoluer, il s'éloigne du stéréotype chasse, pêche et bacon pour devenir une figure presque paternelle. Alors hier soir, Ron Swanson a mis fin à 7 saisons fantastiques. Dans ses grands moments de sagesse, il nous a laissé des conseils pour éviter par exemple la gueule de bois après avoir noyé son chagrin dans l'alcool. Alors à ta santé Ron, et à la prochaine.
On a tout de même un petit espoir en France. Canal+ parle de diffuser la série dans les prochains mois. On croise les doigts. Merci Chanel.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
La perle de ce soir, c'est la scène ouverte acoustique au T-Rock Coco. Le T-Rock Coco où Radio Campus Angers plante ses micros vendredi soir pour la troisième Campus Coco session. On termine cette émission avec l'éternelle bulle sonore, un moment campusien à écouter ou à réécouter. Un mardi sur deux, Sine qua non nous parle de 7e art. Hier soir, toute l'équipe était coincée dans un donjon sado-masochiste rude.
Il s'est passé des trucs de malade ces derniers jours. On a eu les Césars avec Edouard Baird qui a parlé, les Oscars avec tous les Américains. Et Morg, ça va? Vous avez l'air inquiète.
Je viens de trouver une porte recouverte de cuir rouge. Qu'est-ce que je fais?
Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait avec une porte?
On l'ouvre.
Pas mal, cette musique, ça me donne chaud. Regardez, il y a des coupes de champagne. 4 coupes de champagne. Ça vous dit, Ryan-san, Tintin, une petite coupe de champagne?
Si, peut-être un piège. On vient d'entrer dans un donjon SM, Jean.
Mais non!
Il y a des gouttes de ceinture partout, des combis en latex, des lubrifiants à tous les coups possibles.
Et alors, on est peut-être dans un musée?
Le musée du Festanal?
Peu importe, il y a du chauffage, des canapés, une porte, on est en sécurité ici. Moi, j'enlève ma veste, hein. Hop, voilà. Vous êtes sûr que vous voulez pas une petite coupe de champagne, Mork?
C'est quoi cette grosse machine verte? Ryan-san, tu as l'air de connaître?
Ah, je croyais l'avoir détruit! C'est un Viagrator, un engin nucléaire qui donne des érections en béton armé, des heures et des heures de jouissance jusqu'à l'explosion!
Oh là là, bon, on en reparle plus tard, il faut que je fasse les news. Non, en fait, on n'a plus le temps pour les news.
Vous pourrez réécouter la totalité du programme sur le www.radiocampusangers.com et je vous le conseille car les aventures de Cinequanon dans un donjon sadomasochiste, ça vaut vraiment le coup. Dans un instant, dès 20h, vous retrouvez Pas de panique, l'émission geek de Radio Campus Angers. Salut Profi.
Salut Tiffany.
Alors de quoi vous allez parler ce soir?
Ce soir, on s'attaque à la plus grosse chaîne de streaming au monde, YouTube, et on reçoit deux youtubeurs, Mister Playcraft et Amixen.
Super, c'est en direct dès 20h sur le 103FM. Merci beaucoup Profi, à tout à l'heure. Merci également à Chanel, merci à Pierre-Antoine, merci à Alexis et à Thomas, merci à Maël pour la réalisation. On se retrouve demain à 19h, on parlera d'éducation aux médias. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous.
Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.